Que voulez-vous ? Les gens ne sont pas raisonnables. Ils croient que nous leur offrons l'inutile. Des mots, rien que des mots, disent-ils. Mais les choses qu'ils aiment, qu'ils admirent, qu'ils veulent, pour lesquelles ils sont prêts à se battre, voire à mourir, ôtez-leur les rêves, donc les mots qui les habillent, et vous verrez ce qu'il en reste. Les mots nous constituent autant que la chair et le sang. Bonjour à vous qui nous écoutez et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de « Vous permettez que je te tutoie », un podcast proposé par la mission Écriture contemporaine de 50 ans en Yvelines pour donner la parole à celles et ceux qui rendent la culture essentielle. De nombreux recueils de poésie jalonnent l'œuvre de notre invité du jour. Mais la poésie ne saurait se limiter aux frontières du livre. C'est donc aussi par la scène que ces mots trouvent leur chemin vers le public. Avec lui, nous allons parler de son écriture théâtrale, à commencer par sa pièce « Le clochard stellaire », proposée à 50 ans en Yvelines dans le cadre du Printemps des Poètes 2023 et dont vous avez entendu un petit extrait en introduction. Je suis heureux d'accueillir Georges de Cagliari. Bonjour,
bonjour.
Georges.
Bonjour.
Bonjour. Et bienvenue.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Je vais commencer par la petite question rituelle dans cette émission. Georges, vous permettez que je te tutoie ?
Mais avec plaisir.
Eh bien,
je te tutoierai de même.
Eh bien, c'est une excellente réponse. Tu peux rester. Alors, nous allons parler, donc, comme je le disais, de ta pièce Le clochard stellaire. Ça va être le début de la discussion parce que, bien entendu, on va digresser. C'est une tradition.
Oui.
Alors,
oui.
Le clochard stellaire, j'ai sous les yeux le petit texte de présentation, mais j'aimerais mieux que ce soit toi qui nous présente la pièce, en quelques mots.
Eh bien, écoute, cette pièce, en fait, elle est venue un peu malgré moi. Un jour, un comédien est venu me voir et m'a dit « Georges, écoute, je dois faire un récital de poésie dans un théâtre provençal ». Et je me sens mal à l'aise à débiter les poèmes les uns derrière les autres. Bon, est-ce que tu pourrais m'écrire des textes de liaison ? Je me suis dit pourquoi pas, après tout, l'important c'est qu'on parle de poésie et qu'on la fasse entendre. Donc j'ai commencé à écrire des textes de liaison et je n'étais pas satisfait. Et tout naturellement, j'ai eu l'idée d'un personnage onirique, justement le poète, qui découvre, après sa mort, qu'il existe une voûte étoilée, laquelle représente tous les sentiments, bons ou mauvais d'ailleurs, toutes les sensations, bonnes ou mauvaises, que l'être humain peut éprouver, et de préférence les bonnes, bien sûr, et que la condition fondamentale est que cela suscite de la beauté. Donc de la beauté, hein, pas de la bonté. Pourquoi pas aussi la bonté, mais c'est pour ça. Et donc, la pièce est venue comme ça. Et donc j'ai inventé ce personnage, et puis ça a plu énormément. La pièce a été jouée au Festival d'Avignon, elle a été jouée à Paris, reprise ensuite à nouveau au Festival d'Avignon, et puis voilà, et puis là elle va être jouée par Pierre Margot, qui est un comédien merveilleux, à Saint-Quentin, ben je suis ravi.
Alors effectivement, la pièce donc, est présentée en ces quelques mots. La voûte céleste est un pur produit de l'humanité. Elle est faite de tout ce que l'âme humaine a su produire de beauté. Vous, le poète, vous devez en alimenter toutes les étoiles, sinon elles mourront. Donc voilà. En quelque sorte, ce personnage principal, qui est seul en scène d'ailleurs, hein, car il n'y a que Pierre Margot sur scène.
Oui, c'est un seul en scène.
Voilà, ce personnage principal, le poète, est garant de la beauté du monde, en quelque sorte. Est-ce que c'est, selon toi, le rôle essentiel du poète dans notre société actuelle ?
Écoute, le plus difficile est de dire l'essentialité du poète. Il est essentiel. La difficulté, et c'est même le calvaire du poète depuis la nuit des temps, c'est que il est indispensable, et en même temps, les gens qui se croient raisonnables le juge inutile, alors que sans lui, il y a un pan de l'être humain qui disparaîtrait ou qui pour le moins serait muet, ce qui serait tragique. Donc, pour moi, pour être simple, je dirais que un poète, c'est un artiste qui utilise un matériau qui s'appelle les mots, la langue, et qui essaye d'en faire de la beauté et de l'expression. Je ne veux pas monopoliser la parole, j'attends tes questions.
Mais je t'en prie, moi j'attends tes réponses.
Sur la poésie.
Alors, dans la pièce, dans la pièce, le poète jette aussi un regard acerbe sur le monde. Ça arrive, hein, j'ai lu le texte.
Bien sûr.
Voilà, il y a de quoi dire.
Depuis la nuit des temps, les poètes n'ont cessé de dire qu'ils étaient acteurs du monde. C'est vrai pour la poésie, c'est vrai pour le théâtre également. Une poésie qui serait hors de son temps, hors du monde, hors de l'humain, elle n'existe pas. Je crois que Shakespeare disait à propos du théâtre, s'il ne prend pas, c'est un peu clair ce que je dis, hein, je veux dire, c'est pas les mots de Shakespeare. Bon, mais l'idée était là, s'il ne s'implique pas dans les événements et dans la souffrance de son temps, à quoi sert le théâtre ?
Alors, de nombreux poèmes ponctuent la pièce, et pas seulement les tiens, car il y a 11 tableaux, en fait, dans cette pièce. Et dans chaque tableau, il y a un poème. Et
un ou plusieurs,
voilà. Et à part tes poèmes, il y a aussi des poèmes d'Aragon, d'Alain Leprest, de Walt Whitman.
Alors,
Pourquoi
c'est un peu spécifique. C'est-à-dire que, pour le printemps des poètes, je souhaitais, et Pierre Margot aussi, et Sarah Véron aussi, la metteur en scène, je souhaitais élargir la découverte pour les gens de la poésie à d'autres que moi. Tu vois, je suis persuadé que peu de gens connaissent les textes d'Alain Leprest, par exemple.
Ce qui est bien dommage.
Ils connaissent forcément Aragon, ils connaissent forcément Artaud, bon, etc. Mais c'est bien de leur faire découvrir aussi d'autres poètes. Voilà. Et puis, par contre, quand on va reprendre cette pièce au Festival d'Avignon en la saison qui vient, là, il n'y aura que mes poèmes dedans.
Et alors justement, cette pièce qui a été créée il y a une dizaine d'années, son contenu a évolué au fil du temps, et d'après ce que tu me dis, elle va encore évoluer. Ça t'arrive souvent de faire évoluer le texte d'une pièce de cette façon ?
Non. J'ai écrit pas mal de pièces de théâtre, mais en général, c'est la seule pièce où il y a de la poésie à l'intérieur de la pièce. Tu vois ? Alors, je vais te citer quand même quelque chose qui m'a émerveillé. Quand on a donné pour la première fois le Clochard Stellaire, il y a des gens qui sont venus 5 fois. 5 fois voir la même pièce. Ça m'était jamais arrivé. Alors j'en conclus pas que ma pièce est exceptionnelle. J'en conclus plus que la poésie, par l'impact qu'elle a sur les gens, est exceptionnelle.
Et alors je me demandais, justement, on parlait du comédien Pierre Margot. Je le présente très rapidement, il a une longue carrière de comédien, essentiellement au théâtre, il est même doubleur pour le cinéma parfois. Oui. Il est musicien, il a composé la musique de pièces et de documentaires, il écrit également pour le théâtre depuis 2016, il crée ses propres spectacles de chansons, donc bon, c'est quand même un artiste complet. Et donc ce comédien, il tient le rôle du Clochard Stellaire depuis le début de la pièce, et je me demandais si son interprétation avait pu aussi influencé dans l'évolution de l'écriture de la pièce.
Non, j'ai une amitié, une estime, un respect énorme pour Pierre Margot, qui est effectivement un acteur et même un auteur de théâtre vraiment de qualité. J'ai vu sa pièce récente, la Racine de Troie. C'est une pièce superbe, très très bec Étienne, mais superbe. Bon, et non, ça ne m'a pas influencé. Je t'avoue franchement que il n'y a pas grand-chose qui concerne ma vie ou qui concerne mes proches qui rentre dans ma poésie. Je ne sais pas pourquoi. C'est un état, la poésie. pour moi, c'est un tableau verbal. Il faut, il y a la couleur des mots, il y a la musicalité, c'est un tableau verbal, c'est l'équivalent du travail d'un peintre avec des mots.
Comme je le disais à l'instant, le...
Et en même temps, c'est très spontané. Il ne me viendrait pas à l'esprit d'écrire la poésie n'importe quand, j'en serais incapable.
Le regard que porte le clochard stellaire sur la société, on vient d'en parler, c'est aussi un petit peu, me semble-t-il, ton regard à toi de poète.
Ah ben oui, mais c'est évident. Je ne fais pas mystère de mes opinions et je les assume. Je suis avide de respect de l'humain, avide de justice humaine et sociale, et ça se sent.
Alors voilà. Justement, parlons d'autres pièces que tu as écrites. Là, j'ai deux exemples. Par exemple, Fin de Terre en 2004 évoque le changement climatique. Speed Dating en 2009 parle de l'altération de la communication entre les êtres à une époque où, paradoxalement, on a tous les moyens disponibles pour communiquer. Ce sont des sujets de société que tu abordes.
Oui, mais est-ce que tu as l'impression qu'on communique?
Oula, c'est moi qui pose des questions.
Parce que communiquer, ça voudrait dire que les individus sont libres face aux moyens de communication. Or, ça n'est pas le cas. Nous vivons, je vais oublier ton émission là.
Continue, ça me va.
Nous vivons dans un monde de propagande. Le propos, ça dépend d'éclairer l'individu, c'est de l'influencer, et c'est destructeur.
Donc selon toi, le poète doit être un témoin de son temps et...
Voilà, d'abord un poète bien plan-plan, bien conforme avec les élites de son temps, je ne sais pas ce qu'il en reste du poète. Tu vois, j'ai eu la chance quand même dans ma vie de croiser un certain nombre de poètes. Ils n'étaient pas confortables, hein, du tout. Même ceux qui étaient reconnus par cette même élite dont je parle, ils n'étaient pas confortables.
C'est difficile de l'être dans ce monde-là, me semble-t-il, pour un poète
hein?
C'est difficile d'être confortable pour un poète, me semble-t-il, qui est un peu à la marge, hein, de toute façon.
Oui, sauf à cesser d'être poète, il ne peut pas. Ou alors, il fait de la poésie comme on fait de la dentelle. C'est très respectable. Mais point barre, quoi.
Il y a une petite chose qui m'a marqué, parce que j'ai lu le texte de la pièce, hein, Le clochard stellaire, et je constate que le personnage principal est appelé le poète. Alors pourquoi tu n'as pas appelé la pièce Le poète stellaire? Pourquoi Le clochard stellaire?
Parce que, d'abord, ça m'est venu comme ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est péjoratif. Mais peut-être que dans mon inconscient, mais je dis bien dans mon inconscient, parce que moi, je suis très sensible à la sonorité d'un titre, tu vois. Et Clochard Stellaire, ça me parlait. Tu mets le poète stellaire, c'est pas ça.
Oui, ça sonne peut-être moins bien, c'est un fait, oui. Après, moi, j'ai senti une chose, c'est que le mot clochard désigne des personnes à la marge, et je me dis, le poète est à la marge de la société.
Voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de péjoratif. Ce qui est péjoratif dans le terme de clochard, c'est le regard social et la souffrance que l'individu clochardiser en dur, mais en soi, ce qu'on appelait avant le roulier, le vagabond, etc., ça peut être un choix de vie. Bon, malheureusement, ça s'accompagne de souffrances physiques, de problèmes de survie qui détruisent l'enchantement du vagabondage. Mais ça pourrait être au départ un choix de vie. Que j'approuve pas, que je suis incapable de mener, etc., mais que je peux concevoir.
Alors, ce regard de poète sur le monde, on le retrouve aussi dans tes livres pour enfants, car tu écris pour la jeunesse également.
Bon, j'ai écrit deux contes pour enfants, on ne peut pas me qualifier, je prétendrai pas être un auteur pour... Là, j'ai eu la chance d'écrire ces deux contes pour enfants parce que j'avais envie de communiquer avec eux. Et puis, tu vois, j'avais une amie qui était aveugle, moi-même ayant une vue particulièrement basse. Bon, la vue est basse, hein, le cerveau peut-être aussi, mais je ne me rends pas compte. Bon, donc, et je voulais dire aux enfants que même handicapés, le possible existe pour eux tout autant que pour les autres. Et donc, mais je ne me voyais pas en train d'exprimer une souffrance physique d'un enfant dans un conte, même si ça s'est beaucoup fait. Les contes classiques pour enfants sont souvent terribles. Bon, et là, j'ai inventé un petit personnage qui est à 1000 pattes, qui naît sans pattes, et qui devient le plus grand conteur du monde des insectes, parce qu'il invente une histoire tous les soirs et la lune lui envoie une de ses plumes cachées pour se faire une patte. Eh bien, il a été nominé au prix Andy Livre et ça m'a beaucoup touché.
Alors, ce livre s'appelle Kalika, le plumeur de
Kalika,
lune.
le plumeur de lune.
Voilà, donc paru aux éditions de la Musaraigne et effectivement
Voilà.
nominé pour le prix Andy Livre 2012. Et parler de ce genre de sujet à des enfants, c'est plus difficile que d'en parler aux adultes?
Ah ben oui, il n'y a pas de comparaison, parce qu'on n'est pas là pour les traumatiser, et en même temps, il faut qu'ils soient conscients. Les enfants sentent terriblement les choses. Il y a un lien d'ailleurs, là c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais tu ne peux pas être poète si tu ne gardes pas en toi une part d'enfance. Hein? Mais là c'est vraiment un lieu commun que je balance, mais c'est vrai en plus. Mais c'est fragile. La vérité, il faut la dire, mais il faut voir comment tu la dis, parce que tu peux blesser même avec la vérité. Voilà. Et donc, et puis, l'oiseau Fautendeur et la planète Vercaline, eh ben, c'était pour faire conscience de la destruction de la planète par son plan écologique, quoi.
On va revenir au théâtre.
Ouais.
On va parler un petit peu de la compagnie Le Théâtre du Chaos,
Ah
qui
ouais.
produit tes pièces. Alors tu es très impliqué dans cette compagnie, hein, tu en es le cofondateur, si j'ai bien tout suivi.
Oui,
Voilà,
oui.
avec Sarah Véron, que nous saluons au
Oui,
passage.
oui. Sous la menace. Je dis sous la menace. Non, parce que ça, la véritable initiatrice du Théâtre du Chaos, c'est Sarah. Mais par affection et par estime pour ce qu'elle fait, ben, elle m'a demandé d'écrire une pièce interactive. Je ne connaissais pas le théâtre interactif du tout, moi.
Eh bien
Et
justement,
je
j'allais y
lui ai
venir.
écrit.
Qu'est-ce que c'est le
Voilà.
théâtre interactif?
Pardon?
Qu'est-ce que c'est le théâtre interactif? J'ai vu que ça fait
Eh bien,
partie
le
des
théâtre
pièces
interactif,
proposées.
ça remonte à Augusto Boal. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce monsieur.
Alors non, je ne connais pas Augusto Boal.
Alors, c'est un Brésilien qui, pendant la dictature militaire, a décidé qu'il irait de village en village avec sa troupe de théâtre, il était metteur en scène, et qu'il traiterait des problèmes sociaux malgré les militaires. En essayant de faire jouer cela par la population, car il était persuadé que c'était la population qui avait les réponses aux problèmes posés. Bon, ce qui me semble pas tout à fait faux. Après, quand Sarah m'a... Donc, ça a été transposé, c'est devenu le Théâtre Forum en France. Sauf que, si tu arrives devant des adolescents ou des enfants, et que tu leur demandes d'apporter des réponses aux problèmes qu'ils se posent, ils n'en sont souvent pas capables parce qu'ils manquent de données, ils manquent d'informations, ils manquent de réflexion, etc. Donc l'objectif de la pièce est de leur donner l'information réelle, l'outil de réflexion, et à partir de là, de leur permettre de réfléchir et de se positionner. Et ça marche très 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 bien. Il y a eu des prises de conscience énormes sur la drogue, sur la violence, sur des quantités de problèmes. On m'a même demandé d'en écrire une sur la démocratie. Je l'ai fait volontiers. Ça marche formidablement dans des banlieues réputées difficiles ou autres. Ça marche.
Effectivement, j'ai vu les thèmes abordés hein, sur le site internet du Théâtre du Chaos. Ça parle de la violence que les enfants peuvent subir, ça parle du racisme, oui. Du tabagisme, même l'alimentation même. Hein. Et c'est vrai que malheureusement,
absolument.
Les problèmes existent.
C'est vraiment tous les problèmes les plus posés, les plus quotidiens, comme les plus tragiques de la société.
C'est une façon de sensibiliser finalement.
Pardon ?
C'est une façon de sensibiliser, de faire de la prévention.
Voilà, c'est une façon de sensibiliser, de faire réfléchir. Et puis surtout, l'avantage énorme que ça a, c'est que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des pièces pour le troisième âge, hein, montent sur scène, prennent le risque de se tromper sans conséquence. Ça, c'est déjà quelque chose. Et quand la souffrance dont on parle a le malheur de rencontrer une souffrance personnelle que l'on éprouve, par exemple, je pense à la violence, je pense à des choses comme ça, eh bien, ça évite le psychodrame parce que tu as l'écran d'un personnage. Tu te libères en parlant, tu te libères, tu réfléchis pour trouver des réponses et des solutions, mais tu as l'écran du personnage qui t'évite de dire « je ». Tu vois ? Et du coup, d'éviter le psychodrame qui est dangereux, parce qu'on n'est pas des psychanalystes.
Oui, en fait, ça crée un décalage qui
voilà, il y a libère. Cette distance qui protège la personne qui est en souffrance si cela arrive.
Alors, c'est assez étonnant parce que je repense à une petite phrase dans le Clochard stellaire qui dit, enfin je paraphrase, hein, qui dit que le poète est un ennemi du monde ordinaire. Ennemi
ah bah ça,
du
c'est
monde
ce, non,
ordinaire.
Il ne le dit pas. C'est ce que disent les bourgeois.
Et alors, moi j'ai plutôt l'impression que c'est tout le contraire, parce que le poète n'est pas du tout l'ennemi du monde ordinaire. Quand je vois tous les thèmes
pas.
Abordés, ces ça, thèmes de société...
Ah, absolument. C'est pas l'ennemi du monde ordinaire, mais dans son originalité même, il est l'ennemi du conformisme et donc, par définition, l'ennemi du monde ordinaire.
On va terminer.
C'est pour ça qu'il se traitait que même dans le Clochard stellaire, il y a une autre scène où le flic dit « Mais vous vivez de quoi ?»« Ah, vous êtes poète, et vous vivez de quoi ? Vous avez vos papiers ?» C'est tout de suite suspect.
On va terminer par une question sur ton recueil « Cécité pour mieux voir ». Tu l'as évoqué tout à l'heure. Ta vue n'est pas très, très bonne. Hein,
non, mais
clairement.
Je suis très loin, disons-le, il n'y a pas
voilà.
de problème.
Et donc, je te parle depuis tout à l'heure de ton regard de poète alors que tu vois mal. C'est quand même assez paradoxal et je me rends compte que je ne l'ai même pas fait exprès. Mais le regard, ça va bien au-delà des yeux, la preuve. Et donc, je voulais savoir, ce recueil « Cécité pour mieux voir », donc forcément, j'imagine que c'est très personnel.
Eh ben, je vais te surprendre, pas du tout.
Pas du
J'ai
tout.
Écrit ce recueil alors que je ne savais pas que j'allais devenir aveugle.
C'était...
Et j'ai appelé ce recueil « Cécité pour mieux voir » alors que je ne savais pas que j'allais devenir aveugle. Mais mon inconscient devait le savoir avant moi.
C'est prémonitoire, effectivement, c'est très étonnant.
Ah oui, c'est... Ouais, voilà.
Bon, alors,
mais bon, ça ne change rien à la réalité. Hein.
Alors,
je ne fais pas de mysticisme facile.
Alors je
suis un mécréant.
Je termine quand même en... par une petite boutade, on va dire, parce que je constate aussi que dans le Clochard stellaire, il y a beaucoup d'autodérision aussi par moment. Et voilà, l'autodérision, je pense qu'il y en a aussi une petite pointe en toi, et c'est plutôt un compliment, bien sûr, parce que tu as quand même écrit les chroniques d'un aveugle à l'usage des sourds et malentendants.
Ah, ça, c'est
et
autre
rien
chose,
que le
ça.
Titre, je
non,
trouve
non,
ça
je
génial.
Je n'ai pas écrit ça, c'était à la radio.
C'était à la radio, c'est-à-dire ?
Qui faisait une émission sur la chanson française. Et j'avais une chronique qui s'appelait « La chronique du Saint-Jurleur » et je disais que c'est une chronique à l'usage des d'un aveugle à l'usage des malentendants et du sourd.
Écoute,
voilà, mais ça, c'était par référence aussi à, je crois que c'est Diderot qui avait fait un truc comme ça, ou Montesquieu, je me rappelle plus, tiens, j'ai un trou de mémoire, là.
Écoute, en tout cas, voilà, je voulais finir là-dessus, parce que le titre m'a quand même fait beaucoup rire, et je me suis dit que dans le genre autodérision, quand même, il y avait un petit peu de niveau, hein, voilà.
Je peux ajouter quelque chose?
Mais bien entendu.
Bon, dans le contexte actuel, je voudrais remercier, malheureusement je ne sais pas leur nom, parce que ça vient de se faire, une troupe de théâtre de la région vosgienne qui va créer ma pièce Les Chiens, qui traite dont le point de départ est la retraite, voilà, et qui traite un monde épouvantablement horrible, où les gens sont déchus de leur statut d'humain pour devenir des objets serviles jusqu'à leur mort. Voilà. Je voudrais les remercier s'ils nous entendent de loin.
Eh bien, on leur passe le bonjour. Et voilà. En ce qui me concerne, il va être temps de te dire au revoir bientôt, car nous arrivons au terme.
Eh bien, écoute, je te remercie. Et puis, j'espère qu'il y aura beaucoup d'amis de la poésie qui viendront à Saint-Quentin voir le clochard célèbre.
Je te le souhaite. Merci beaucoup.
Je te dis
à bientôt. Au revoir.
Au revoir à tous.
Et avant de terminer cette émission, chers auditeurs et auditrices, quelques petites infos pratiques. Sortez vos agendas, c'est maintenant. Si vous écoutez ce podcast à temps, vous êtes invité à assister à la représentation du Clochard Stellaire, mise en scène de Sarah Véron, d'après le texte de Georges de Cagliari, avec le comédien Pierre Margot, seul en scène. C'est une production de la compagnie Théâtre du Chaos qui s'adresse plus particulièrement aux plus de 14 ans. La représentation a lieu vendredi 24 mars 2023 à 20h30. C'est un spectacle proposé dans le cadre du Printemps des Poètes 2023 à La Verrière, qui est partenaire de l'événement, et plus précisément à la Maison de la Musique et de la Danse Pierre Sélincourt. La bonne nouvelle, c'est que l'entrée est gratuite, mais il est conseillé de réserver au 01 30 13 87 40 ou par mail scarabée-laverrière@mairie-laverrière.fr. Et si vous écoutez le podcast trop tard pour assister à la représentation du 24 mars 2023, il vous reste internet pour découvrir l'œuvre de Georges de Cagliari. En tapant son nom dans votre navigateur de recherche, vous atterrirez sur son site internet, qui donc porte son nom, en toute logique. Pour découvrir ses livres, vous pouvez vous rendre sur le site des éditions de la Musaraigne. Au passage, vous pouvez aussi faire un petit détour par le site du Théâtre du Chaos, pour en savoir plus sur ses pièces et les multiples activités de cette compagnie. Enfin, pour retrouver le programme complet du Printemps des Poètes 2023 à Saint-Quentin-en-Yvelines, deux adresses internet. Le site du réseau des médiathèques, e-mediathèque@sqy.fr, et le site kiosque, kiosque.sqy.fr. Et voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Et à bientôt.